Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Po pour cette émission spéciale nommée Radio USA où aujourd'hui nous allons parler de Donald Trump et de la Constitution américaine. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Lucas, vous m'avez déjà sûrement entendu dans d'autres émissions sur Radio Campus Po. Si vous avez déjà écouté quelques Campus Mag ou si vous avez par exemple écouté l'émission culturelle animée par Lucas et Lucas, j'ai nommé Radar. Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul pour parler de Donald Trump et de la Constitution américaine, puisque moi qui suis en master en histoire et qui vais vous faire une analyse historique un peu de ce sujet, je suis en compagnie d'une juriste en la présence de Mariam. Mariam, bonjour.
Bonjour.
Mariam, tu vas nous faire une analyse juridique de ces premiers jours du mandat de Donald Trump et de ce texte qu'est la Constitution américaine. Mmh. Pour faire un petit rappel rapide de ce qu'est la Constitution des États-Unis d'Amérique pour nos auditeurs, eh bien, la Constitution américaine est une sorte de contrat qui est né au XVIIIe siècle, à la fin du siècle des Lumières, sur le continent nord-américain, pendant que de l'autre côté de l'Atlantique, en France, nous aussi, nous faisions la Révolution. Les Américains, quant à eux, avaient déjà déclaré leur indépendance le 4 juillet 1776 à Philadelphie et en septembre 1787, les grands personnages que nous connaissons, comme par exemple George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, mais aussi James Madison, John Adams et toute la compagnie, se sont rassemblés pour signer, au nom des 13 colonies américaines, la Constitution des États-Unis d'Amérique, un État fédéral qui aujourd'hui fait beaucoup parler de lui, comme ça a toujours été le cas finalement, je pense. Donc une constitution qui a cette particularité eh bien, de tenir dans le temps, puisque cette constitution de 1787 tient encore aujourd'hui et est à la base encore du droit américain. Et pour parler de droit, Mariam, eh bien, oui. Tu vas nous faire un petit point sur ce texte extraordinaire.
Alors déjà, qu'est-ce que la Constitution ? Pour ceux qui ne sont pas juristes, je vous fais un petit exemple de ce que ça pourrait être. En fait, c'est le texte fondamental qui fixe les règles du jeu pour tous, qu'on soit citoyen, institution, président. En fait, c'est un peu le mode d'emploi du pays. C'est ce texte-là qui va dire qui peut faire quoi, ce qui est interdit, ou comment le pouvoir s'exerce et comment il est contrôlé. Et donc, comme Lucas l'a très justement rappelé, la Constitution américaine, elle date de 1787 et elle est plus courte que notre Constitution française qui, elle, date de 1958 et qui a plusieurs blocs, notamment le préambule, la Déclaration des droits de l'homme, la Charte de l'environnement et d'autres droits fondamentaux. Cette Constitution américaine dont on parle aujourd'hui, elle ne contient que 7 articles et 27 amendements. Et c'est elle qui va fonder ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs et contenir aussi le Bill of Rights, qui est un ensemble d'amendements, en fait, qui reconnaissent des droits fondamentaux, comme la liberté d'expression, qui est le premier amendement de la Constitution américaine, ou encore le droit au port d'armes, ou encore le droit à un procès équitable. Et donc, cette séparation des pouvoirs, si je vous l'explique avec un vocabulaire un peu plus simple, alors c'est une théorie qui nous date de Montesquieu. Et en fait, le président, le Congrès et les tribunaux, ils ont chacun un rôle à jouer dans ce mécanisme de séparation des pouvoirs. Et ils sont en fait censés se surveiller entre eux. Donc, vous avez le Congrès américain qui peut bloquer une réforme, le président qui peut mettre son veto et la Cour suprême qui peut annuler une loi ou une décision. Et c'est ce qu'on appelle ce système-là, le système des « checks and balances ». Mais ce bel équilibre que je viens de vous expliquer, il est parfois mis à rude épreuve en pratique puisque le président américain, il peut signer des executive orders, Ce sont des décrets en fait qui vont lui permettre d'agir sans passer par le Congrès. Et en principe, ces executive orders doivent respecter les lois en vigueur et peuvent être contestées devant les tribunaux. Mais vous vous doutez bien que si on est là aujourd'hui, c'est que c'est pas tout beau tout rose et que Trump les a utilisés, ces executive orders, à la chaîne pour imposer sa politique.
Oui, effectivement. C'est vrai que Donald Trump en a beaucoup utilisé dernièrement. Il me semble, je crois, qu'au bout du premier mois de son second mandat, eh bien, on a calculé, je crois, à peu près 100 décrets, 100 executive orders utilisés par Donald Trump dans plein de domaines différents, finalement. Mmh. On en verra quelques-uns aujourd'hui.
Ouais.
Mais du coup... on en arrive à un premier point qui est important de souligner à propos de ce rapport entre Donald Trump et la Constitution, qui est en fait un règne du présidentialisme.
Mmh.
Un règne qui, alors, je spoil un peu nos auditeurs, ne date absolument pas de Donald Trump. Hein.
Oui.
Le présidentialisme est vraiment ancré dans l'histoire américaine. Et justement, je ne sais pas si tu as quelques mots à nous dire sur ces décrets présidentiels, sur ce règne du présidentialisme.
Trump, c'est la fatigue. Trump, il s'inscrit dans cette tradition, comme tu as dit, qui n'est pas nouvelle, de présidentialisme fort qu'on a déjà pu voir avec Nixon, Watergate Johnson ou Reagan, qui en fait ont profité un petit peu du flou autour des institutions dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Congrès, la Cour suprême, et qui ont agi unilatéralement, parfois sans passer par le Congrès pour poser leur politique. Et en fait, le mandat de Trump, il montre que la Constitution américaine, elle peut être contournée sans forcément être violée. Je m'explique, c'est parce que quand on sait que les États-Unis sont une république fédérale, c'est-à-dire que chaque État a ses propres lois, sa propre constitution et sa propre politique. Ainsi, par exemple, le cannabis est légal en Californie, mais il peut être interdit dans un autre État et toujours illégal au niveau fédéral. Donc ça crée un vrai casse-tête juridique, mais qui profite Donc c'est un vrai casse-tête juridique qui va profiter aux criminels, mais pas que, mais aussi à nos chers chefs d'État américains, puisque dans un système... présidentialisme fort, vous vous doutez bien que ceux qui sont censés être les contre-pouvoirs, notamment le Congrès ou les tribunaux, sont parfois mis sur le côté. Et nous allons le voir tout à l'heure que, par exemple, l'influence de Donald Trump sur la Cour suprême, puisque il va pouvoir nommer trois juges qui sont de son bord politique, ce qui aura une influence sur la manière dont sont rendues les décisions, mais aussi sur la couleur politique qui sera prise par la Cour suprême. Et donc, puisque je vous parle de politique, autant que je vous présente aussi les deux grands partis des États-Unis. Bon voilà, hein, pour ceux qui regardent un peu à la télé, vous avez vu que c'est pas comme en France. Aux États-Unis, on a deux grands partis. Vous avez les démocrates et vous avez les républicains. Donc dans les démocrates, pour donner une figure, on peut penser à Joe Biden, Kamala Harris. Or que dans les républicains, on va principalement garder notre figure d'aujourd'hui, c'est-à-dire Donald Trump. Et c'est ce système un peu bipartite, il s'explique par le mode de scrutin majoritaire à un tour là-bas, c'est-à-dire qu'il ne suffira que d'un seul tour pour qu'on puisse nommer le chef d'État. C'est pas comme chez nous ici en France où déjà vous avez une diversité de partis politiques, mais surtout ça se joue à plusieurs tours.
Et bah, du coup, effectivement, un bipartisme donc qui est plutôt favorisé finalement, comme tu l'as très bien dit, par le mode de scrutin.
Oui.
Donc c'est vrai que ce bipartisme américain a l'air de donner une sorte de manque de nuance dans
oui,
la politique américaine. Mais bon, alors, on observe quand même que... la figure de Trump est tellement clivante qu'il en arrive même à avoir un groupe de républicains qui s'est formé, qui s'appelle Republicans Against Trump, qui justement pense que le mouvement MAGA est un mouvement tout à fait à part du parti républicain. Mais effectivement, pour revenir sur ces décrets présidentiels, sur ce présidentialisme, eh bien justement, la couleur du camp présidentiel a souvent été dépassée, surtout dans les moments de crise, puisque eh bien, le personnage du président est un personnage puissant, bien souvent justement au détriment des textes, hein, puisqu'il utilise ses décrets un peu pour servir sa propre politique, pour servir une politique qu'il prétend être comme le service aux États-Unis. Donc, je prendrai un exemple quand même relativement concret dans l'histoire qui a montré qu'entre démocrates et républicains, il y a eu une sorte de passation de pouvoir. Donc, cette passation de pouvoir se fait au milieu des années 60. Et en particulier avec le mandat de Lyndon Johnson. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas particulièrement intéressés par cette période, et en particulier par rapport à la guerre du Vietnam, le nom de Lyndon Johnson semble un peu obscur, voire même quasiment tombé dans l'oubli. Mais on retient surtout l'image de ce Texan plutôt gaillard en train de prêter serment dans l'avion au retour de Dallas, un malheureux 22 novembre 1963, avec à ses côtés une Jackie Kennedy tout juste veuve et la robe encore maculée du sang de son mari John Fitzgerald Kennedy. Et pourtant, bien, Lyndon Johnson a montré que le pouvoir présidentiel américain atteignait des dérives déjà au milieu des années 60. Puisqu'en 1964, ses équipes déforment le récit de deux incidents survenus dans le golfe du Tonkin, donc au large du Vietnam, pour faire adopter quasi unanimement une résolution pour engager encore un peu plus les troupes américaines dans le bourbier vietnamien. Donc c'est à partir de cet instant où l'on peut considérer que commence la guerre du Vietnam, puisque c'est le début de la conscription. Alors effectivement avec l'assentiment du Congrès, mais sur la base de faits complètement déformés, un droit que s'est arrogé Lyndon Johnson de mentir ciment au contre-pouvoir et donc aussi à la population américaine. Et donc dans un contexte considéré comme un contexte de crise, puisque les États-Unis menaient une politique assez belliqueuse contre l'expansion du communisme dans le monde. C'était vraiment l'horreur absolue pour les Américains d'entendre que le communisme s'emparait de tel ou tel État. Mais ces manipulations et abus de pouvoir ont bien continué par la suite et ont été justement utilisées par d'autres présidents, d'autres couleurs, comme Nixon, avec le Watergate quelques années plus tard, un autre républicain, Reagan, avec le scandale Iran-Contra, et évidemment, je passerai tous les autres scandales, hein, puisqu'il y en a pas mal. Mais justement... le président, avec ses équipes, je pense à Nixon et à Henry Kissinger, prenait un grand nombre de libertés sur le plan diplomatique et militaire. C'est grâce à un décret pris un peu en secret que Nixon décide, sans l'accord du Congrès, de bombarder le Cambodge avec une telle violence en 1970 que encore aujourd'hui le Cambodge est le pays le plus bombardé de l'histoire mondiale. Et donc, eh bien, le président des États-Unis, comme on le voit, est un personnage puissant, et l'histoire a montré que eh bien, certains ont profité du flou des textes pour faire des entorses à la Constitution, à contourner les règles et à faire leur possible pour servir les intérêts de leur propre politique au nom de ceux des États-Unis. Donc, comme je l'ai mentionné rapidement avec Nixon et Kissinger, le président s'entoure de personnalités parfois extravagantes et tout aussi puissantes que lui de par leur charisme ou leur intelligence. Et on retrouve aussi parmi ces personnalités des hommes riches, puissants, influents sur la scène politique en général. Et c'est effectivement le cas de Donald Trump, en fait, avec... un certain monsieur qui d'ailleurs n'est pas américain de base, puisqu'il est sud-africain, c'est Elon Musk. Ouais. Et donc, effectivement, est-ce qu'on peut dire que, avec Donald Trump, on voit, par rapport à la Constitution aussi, que le président coopère avec de grandes fortunes.
Alors, mon regard de juriste va faire que, sur cette question, je pense qu'il y a un réel, je dirais pas danger, peut-être c'est peut-être trop fort, mais quand vous prenez en compte le fait qu'actuellement, Elon Musk, par exemple, qui est un acteur du privé, va avoir une influence, enfin a une influence déjà assez grande sur le débat public, et que contrairement au président, ces acteurs privés, donc Elon Musk et d'autres, il y avait aussi Mark Zuckerberg, je crois, qui avait déjà apporté son soutien à Donald Trump. Donc ces acteurs, contrairement au président, ne sont pas contrôlés par les contre-pouvoirs institutionnels, c'est-à-dire le Congrès ou encore la loi avec la Cour suprême, pardon. Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur un exemple qui montre vraiment à quel point ils ont une influence à ne pas négliger. C'est l'exemple de Twitter, qui est devenu aujourd'hui X, qui, je ne sais pas si vous vous rappeliez, enfin, je vais vous faire un petit rappel d'actualité. Après les violences du Capitole en janvier 2021, la plateforme à l'époque, donc Twitter, avait banni Trump pour incitation à la violence. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le premier amendement, c'est celui sur la liberté d'expression, il protège la liberté d'expression contre l'État, mais pas contre une entreprise privée. C'est-à-dire que Twitter, étant une entreprise privée, le premier amendement ne lui était pas applicable. Ils avaient tout à fait le droit de bannir Trump à ce moment-là. Mais... quand Elon Musk va racheter Twitter et va en faire X, il va décider de réactiver le compte de Donald Trump, pardon, au nom d'avoir un espace plus ouvert. Et en fait, ce geste, il n'est pas simplement symbolique pour moi, c'est un vrai levier d'influence dans la mesure où on peut se demander si est-ce que c'est vraiment sain démocratiquement qu'un milliardaire puisse... lui, avoir le monopole sur à qui donner la parole et donc finalement peser indirectement sur la circulation des idées puisque en réactivant le compte Twitter de Trump, il va lui redonner la parole, donc ouvrir, donner plus d'espace pour les discours politiques. Et donc il y a une vraie tension de fond par rapport à ces plateformes, puisqu'elles façonnent l'opinion publique, elles échappent aux règles classiques de la liberté d'expression. Et donc, Musk, il va pouvoir influer sur qui parle, comment et à qui. Et c'est quand même une forme de pouvoir parallèle qui n'est pas donc encadré par la Constitution, mais qui va affecter directement le débat démocratique. Et on l'a vu très récemment, la liberté d'expression, même si c'est un pilier aux États-Unis, elle a été à plusieurs reprises sous Trump menacée, notamment dans le rapport par rapport aux médias. Il a souvent accusé la presse de propager des fake news. Et ce n'était pas juste un discours politique, puisqu'il a même pris des mesures concrètes. Je crois avoir vu que certains journalistes ont vu leur accréditation suspendue, donc on est vraiment sur de la censure. Et même récemment, l'agence de presse dit Associated Press a été exclue du press pool présidentiel. Donc Trump retire le micro à ceux qui ne vont pas dans son sens, en fait.
Effectivement, ouais. Effectivement, c'est vrai que Il supprime les accréditations, il essaie d'arranger en fait l'information un peu comme il le souhaite, et on le verra dans la prochaine partie d'ailleurs, puisque c'est vrai que la question de la liberté d'expression est vraiment quelque chose de très américaine, et parmi les éléments de la Constitution les plus en danger, eh bien, ce premier amendement est très souvent remis en question, on en reparle très souvent puisque Trump lui-même en fait l'invoque quand il le souhaite et quand bon lui semble en fait. Mais parce que effectivement tu as parlé de Elon Musk, de Twitter, de X et de l'importance qu'avaient les réseaux sociaux pour Donald Trump, puisque lui-même a créé son propre réseau social depuis qu'il a été exclu de Twitter, quand ça s'appelait encore Twitter et que c'était encore un petit oiseau. Il a créé le réseau social Truth Media. Il me semble que c'est... Oui, c'est Truth Media. Et en fait, eh bien, Donald Trump, par rapport à la presse, aux médias, aux réseaux sociaux, pour son premier mandat en 2016, avait déjà reçu un soutien considérable d'un magnat de la presse et des médias, qui n'était pas Elon Musk, mais qui était un certain Rupert Murdoch, donc qui, lui, est australien et qui était un ancien soutien du président Ronald Reagan déjà dans les années 80 et qui avait soutenu la campagne donc en 2016 de l'homme orange à l'aide de ses chaînes de télévision comme Fox News. Et nous voyons que la coopération entre les présidents et les milliardaires donc n'est pas nouvelle, hein, puisque ça avait déjà été le cas pour Ronald Reagan dans les années 80, puisque c'est une affaire aussi d'influence sur les masses, sur la société, sur la politique générale. Sans aller jusqu'à dire évidemment que les États-Unis est un pays oligarchique, hein, ce n'est pas la raison de mon propos, mais effectivement, c'est vrai que historiquement, on a remarqué que dans l'histoire américaine, l'influence des grandes fortunes a été assez importante. Je prends comme exemple les années 1860 aux années 1910-1920, puisqu'elle est très connue pour avoir été celle d'un capitalisme assez prédateur, où justement sont apparues les premières grandes fortunes, les premiers milliardaires. Et quand je dis les premiers milliardaires, je parle par exemple de Andrew Carnegie dans la métallurgie, de John D. Rockefeller, le fameux self-made man qui a monté la compagnie pétrolière Esso après avoir découvert du pétrole dans un champ en plein milieu de l'Ohio, et aussi le très antisémite Henry Ford à qui l'on doit évidemment quand même les grandes chaînes de production, puisque, bon, quand même, il est important de souligner que dans l'histoire américaine, dans cette période des années 1860 aux années 1920, les milliardaires américains ont littéralement dessiné, en fait, le paysage de certaines villes et de certaines régions des États-Unis. Le nom de Ford est indissociable de la ville de Détroit, et si vous allez à New York, vous ne pouvez pas manquer le magnifique quartier du Rockefeller Center avec ses immeubles au style art déco. Et aussi un autre exemple qui est la ville de Pittsburgh, dont le poids électoral est très important à chacune des élections. Tous les 4 ans, tout le monde est tourné vers Pittsburgh et l'état de la Pennsylvanie, puisque c'est un swing state, hein, avec le principe des grands électeurs. Eh bien, on regarde un peu ce qu'a donné l'élection des grands électeurs à Pittsburgh. Et donc, dans cette ville à la forte population ouvrière, dessiné par l'industrie de l'acierie et de la métallurgie grâce à Andrew Carnegie, eh bien, par exemple, la franchise de football américain très connue est l'une des plus rentables, s'appelle justement les Steelers, hein, en référence au monde de la métallurgie. Donc, il faut quand même dire qu'on ne peut pas négliger aux États-Unis le poids des fortunes sur le pays, et encore aujourd'hui avec Donald Trump, puisque lui-même est un milliardaire, et je pense que ça paraît assez évident de dire que Ce qui est assez original avec la présidence de Trump, c'est qu'on a pour le coup vraiment un président qui défend ses propres intérêts, mais non pas ses intérêts politiques, mais aussi ses intérêts privés et financiers, en fait. Donc voilà, je pense que nos éditeurs ont peut-être besoin d'une petite pause fraîcheur. Donc je te propose qu'on écoute un peu de musique, Mariam.
Okay.
Qu'est-ce que tu nous as choisi pour la musique, pour cette pause ?
Bon, je pense que tout le monde la connaît, hein, mais la musique Born in the USA, je trouve qu'elle est plutôt parlante. J'ai plus le nom de l'artiste d'ailleurs.
De Bruce Springsteen.
C'est ça.
C'est ça.
C'est ça.
Ah ben, très bien. Eh bien, on va écouter Bruce Springsteen nous parler de sa naissance aux États-Unis. À tout à l'heure, enfin de suite plutôt.
Took us when I hit the ground. End up like a dog that's been beat too much till you spend half.
Eh bien, merci beaucoup, Mariam, de nous avoir fait écouter du Bruce Springsteen. C'est toujours un plaisir d'entendre Born in the USA. Moi, ça me rappelle beaucoup les images de la convention républicaine de 1980 où Ronald Reagan se présente sur scène avec en fond Born in the USA et où en fait Bruce Springsteen dit clairement que en fait il ne soutient absolument pas le candidat républicain, ce qui est assez amusant, mais je ne vais pas m'étaler dessus. On connaît tous les artistes comme les Village People qui ne veulent pas que leur musique soit utilisée par Donald Trump. L'histoire se répète, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler des frictions, justement, des sujets sur lesquels Donald Trump est pas en désaccord, mais utilise la Constitution de manière un peu... un peu floue.
Oui.
Enfin, un peu floue. Il a le mérite au moins d'être honnête, mais on verra que ça porte sur des sujets quand même assez sérieux.
Oui.
Et en premier lieu, on l'a évoqué juste avant la pause musicale, la question de la liberté d'expression, puisque la liberté d'expression aux États-Unis est assez relative à la question des grandes fortunes. On a vu Elon Musk, Rupert Murdoch. Donc, la liberté d'expression est aussi souvent invoquée par le camp MAGA, Make America Great Again. Puisque depuis le début de son second mandat, Trump et son équipe n'ont eu de cesse d'attaquer le monde médiatique américain aussi sur des bases légales. Ce qui n'était alors que des paroles au cours de la campagne s'est avéré être le cheval de bataille de la nouvelle administration contre la liberté de la presse. L'un des exemples les plus frappants, tu l'as évoqué juste avant la pause musicale, en matière de restriction de la liberté d'expression et de la presse, se situe dans ce fait qui était justement passé un peu inaperçu de notre côté en France, mais c'est le fait que le président exclut et retire les accréditations des journalistes de Associated Press, qui est quand même une agence de journalisme quand même très, très influente et très, très compétente en fait dans son traitement de l'information. Ce qui fait que les faits et les paroles rapportées à l'issue des conférences de presse sont amenées à être déformées ou racontées de manière à profiter un peu à Donald Trump, comme on le voit avec cette histoire avec Associated Press. Et donc, qu'est-ce que tu as à nous dire, Mariam, sur justement la question de la liberté d'expression et justement de ce premier amendement du Bill of Rights?
J'aimerais quand même rappeler que Trump et d'autres figures de la droite américaine, parce qu'il n'est pas le seul, ils ont souvent accusé les plateformes d'être woke, pro-communistes ou, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais de diffuser des fake news. Et c'est pour cela, enfin c'est l'une des justifications du camp Trump, qui va les amener à une guerre constante contre les médias et qui ne va pas se limiter simplement à des critiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi à signer des décrets qui vont restreindre certaines libertés d'expression dans le domaine éducatif et sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu plusieurs tentatives, par exemple dans le domaine éducatif, de censurer des livres ou des cours dans les écoles au nom de la lutte contre l'endoctrinement idéologique, je cite. Et l'un des exemples qu'on a pu voir là très récemment, c'était l'intervention de Donald Trump dans le domaine éducatif, qui avait cherché à interdire certains enseignements sur des sujets, sur les questions de genre ou sur des livres d'histoire sur l'esclavage dans certains États républicains. Et il avait essayé d'utiliser donc le pouvoir exécutif pour imposer sa propre vision conservatrice de l'éducation. Là où moi, la juriste, je viens à la rescousse, c'est que je me pose cette question, c'est de savoir jusqu'où un président il peut intervenir dans la programmation éducative sans empiéter sur la liberté d'enseignement qui, elle, est protégée par la Constitution. Donc, de ce qu'on peut voir dans l'actualité, il a dit vouloir prendre un décret qui supprimerait aussi le ministère de l'Éducation, ce qui a poussé certains enseignants américains à manifester, voire à quitter le territoire. Je ne sais pas si vous avez pu voir passer récemment dans la presse, il y a des enseignants américains qui ont quitté le territoire. Il y en a même qui se sont installés en France, à Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils ont fui les décrets récents de Trump. Mais dans les faits, je pense que cette situation ne va pas durer non plus, parce que dans les faits, il faut savoir que le pouvoir éducatif, il est très local aux États-Unis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez la Constitution, vous avez les États fédéraux qui ont leur propre programme. Et ce sont ces États qui vont... alors, il y a les États, les villes, les comtés, qui vont contrôler leurs écoles. Donc, même si Trump, il prend ce décret-là de censurer un peu ce qui pourrait être dit dans les manuels éducatifs, ça a surtout simplement une portée symbolique, parce que pour réellement pouvoir supprimer le ministère de l'Éducation, il aurait fallu une loi qui soit votée au Congrès. Parce que je vous ai dit que c'était le pouvoir législatif, c'était là-bas qu'on faisait la loi. Donc, pour que le système des checks and balances fonctionne parfaitement, il aurait fallu que Trump prenne un décret, mais qu'il le fasse passer devant le Congrès, qui donnera son accord. Mais à l'heure actuelle, il n'a pas encore, toutes les voix. Donc, de ce côté-là, la situation va se débloquer. En bref... cette annonce qu'il a fait, parce qu'il l'a fait publiquement, je ne vous l'ai pas dit au début, mais il l'a vraiment fait publiquement, il disait qu'il allait supprimer donc le ministère de l'Éducation, parce que derrière, il veut lutter contre la stratégie woke. Voilà, donc depuis des mois, il dénonce un système éducatif qui, selon lui, endoctrine les enfants avec des idées progressistes. Donc il veut mettre fin et rendre l'école au peuple. Alors ça, c'est une citation que je vous fais, c'est pas la mienne. il veut rendre l'école au peuple. Et c'est un discours qui séduit pas mal de personnes, notamment... je crois, la droite chrétienne, les conservateurs.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la droite chrétienne qui est surtout implantée dans les États du Midwest, cet entre-deux entre la côte est new-yorkaise et la côte ouest de Los Angeles. On a vraiment ce milieu des États-Unis où la droite chrétienne est très bien implantée. Et eh bien, je te remercie, parce que c'est vrai que pour le coup, tu introduis vraiment toutes mes parties, toutes mes analyses historiques. Donc c'est vraiment génial, mais parce que c'est vrai, tu as tout à fait raison de le dire. En fait, est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui fait que les États-Unis est un pays formidable, un terreau de la liberté, où en fait, finalement, l'éducation, les programmes scolaires sont contrôlés par par les parents, en fait, par les associations de parents d'élèves, les comtés, les États. Et c'est justement assez intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'en viens à citer un exemple qui m'était venu à l'esprit pour préparer cette émission, qui est le Thomas Scopes Monkey Trial, donc qui est le procès du singe de Thomas Scopes, et qui date justement au mois de juillet prochain. Ça va faire plus de 100 ans, ça va faire 100 ans exactement, qu'il s'est tenu dans l'état du Tennessee. Donc ce procès était très médiatisé déjà en 1925, puisque des journalistes de tous les États-Unis, la presse, la radio, tous étaient dans cette petite ville dont je ne me souviens plus le nom, située au fin fond du Tennessee, pour suivre ce procès tout de même assez original. Pourquoi ? Eh bien, parce que Thomas Scopes, qui était accusé par l'État du Tennessee d'avoir enfreint le Butler Act, était un enseignant qui était poursuivi par officiellement l'État du Tennessee. Donc l'intitulé juridique de ce procès, c'est State of Tennessee against Thomas Scopes, pour avoir justement violé le Butler Act. Qu'est-ce que le Butler Act ? Tout simplement, eh bien, c'est une loi de l'État du Tennessee qui interdisait l'enseignement de la théorie de l'évolution de Darwin dans les écoles primaires et secondaires. Car, eh bien, dans les États-Unis des années 20, la peur du communiste, parce que c'est à partir des années 20 que la peur du communiste avait pris vraiment en grippe l'esprit des Américains, cette peur du rouge était aussi la peur de l'athéisme, ou sinon de la remise en cause des dogmes religieux. Donc, dans une Amérique encore très croyante, il était presque impensable de remettre en question le récit créationniste de la Genèse. Et comme on peut le remarquer, il y a 100 ans très exactement, l'Amérique était traversée par une peur, en fait, finalement, encore bien ancrée, que tu as évoquée avec le woke mind virus, comme le disait Elon Musk il y a quelques semaines. Donc, dans certains coins du pays, on retrouvait déjà cette peur du progressisme, de cette remise en cause de la religion, et c'était déjà... une émergence de problématiques toujours au goût du jour, hein, avec la liberté de l'éducation, la place de la religion à l'école, mais également la fracture entre une Amérique rurale et pieuse face à son antithèse urbaine et athée. J'avais aussi un autre exemple qui date, lui, des années 1950 et qui pourrait parler peut-être un peu plus à nos auditeurs, puisque il me semble que la période macartiste est un peu plus connue. Je parlerai très rapidement du Grand Feather Movement, qui en fait se réfère à un mouvement de réaction contre un mouvement réactionnaire. C'est un peu flou dit comme ça, mais je vais faire très rapide. En fait, en 1953, lorsque le président Eisenhower et son administration républicaine prennent le contrôle de la Maison-Blanche et de l'ensemble, en fait, des institutions au pouvoir, son département d'État fait circuler un texte interdisant dans les bibliothèques américaines, que ce soit sur le sol américain ou dans les bibliothèques diplomatiques, dans les ambassades, des textes supposément communistes, c'est-à-dire qu'ils feraient l'apologie du communisme, du socialisme. Et en 1953, dans un comité de parents d'élèves de l'Indiana, pendant une réunion, une femme se lève et réclame l'interdiction d'un ouvrage soutenant des thèses communistes. Bon, eh bien, ce texte, figure-toi, Mariam, que ce texte est très connu de nos auditeurs. C'est un texte où le héros prend aux riches, aux shérifs, dans les caisses du shérif pour donner aux pauvres. Bon, eh bien, ça, franchement, quand on est américain dans les années 50, on se dit, mais ça n'a pas la tête, c'est communiste, ça. Do you want Russia to take and come over? Non, c'est n'importe quoi. Eh bien, en fait, ce texte, roulement de tambour, c'est tout simplement Robin des Bois. C'est Robin des Bois. Et donc, en réaction, un mouvement d'élèves, d'étudiants se forme, le Grand Feather Movement, en référence justement à Robin des Bois, pour contrer cette attaque. Donc, du coup, c'était déjà un peu l'hystérie à cette époque. Et c'est peut-être le retour de l'hystérie avec Donald Trump, puisque Donald Trump soutient ces mouvements de censure des programmes scolaires jugés trop progressistes, trop woke. On voit aussi que Donald Trump essaie de ne pas être trop explicite. C'est une espèce de funambule, mais il ne dit rien contre les campagnes d'intimidation. Lui-même a écrit des décrets, a signé plutôt des décrets qui vont contre cette liberté d'expression. Et les réductions de budget, ces décrets, ces campagnes d'intimidation s'en prennent aussi à la recherche et au monde scientifique et portent atteinte à un droit qui est très américain et dont tu vas nous parler, qui est le droit de l'environnement.
Le droit de l'environnement. Eh bien, curieusement, je ne vous fais pas de surprise, spoiler, je suis juriste en environnement. Donc, je suis quand même la bonne invitée, donc merci pour l'invitation.
Avec plaisir.
Donc, comme il l'a dit, il y a un autre terrain d'affrontement de la présidence Trump, c'est l'environnement. Sous Trump, les budgets pour la protection de l'environnement, ils ont été réduits considérablement. Là, récemment, je crois qu'il a pris plus de 31 réglementations en rapport avec l'environnement, où il avait pour ne citer que quelques exemples, hein, mais il avait réduit des fonds pour les parcs nationaux, il avait mis moins de sanctions pour les entreprises qui étaient très polluantes, et il avait aussi refusé de ratifier certains accords internationaux sur la lutte contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, l'un de ses gestes les plus controversés, ça va être son retrait des accords de Paris de 2017, lors de son premier mandat, où il avait annoncé que les États-Unis se retireraient de l'accord de Paris sur le climat parce que cet accord pénalise l'économie américaine et que donc il fallait qu'ils en sortent. Et donc cette posture que je vais qualifier d'isolationniste, elle a aussi eu un impact juridique parce que en faisant ça, il y a eu moins de normes et moins de régulations en matière d'environnement. Mais cette décision de Trump de signer un décret de sortie, elle pose aussi une question juridique, c'est de savoir est-ce qu'un président il a le droit de renier un engagement international aussi important sans l'accord du Congrès. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les traités internationaux ne sont pas toujours ratifiés par le Congrès. Voilà. Donc là, on voit encore une faiblesse de notre fameux système des checks and balances, puisque, là je vais vous expliquer, typiquement par rapport à l'accord de Paris, il a été signé par Obama comme un executive agreement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Constitution américaine, elle accorde au président, un pouvoir de négociation des traités, mais il doit obtenir l'approbation du Congrès pour ratifier tout traité. Ça, c'est le principe de base. Or, le retrait des États-Unis des accords de Paris... la décision de signer les accords de Paris par les États-Unis, elle s'est faite unilatéralement par décret. Donc, je vous l'ai dit, c'est Obama qui a pris juste un executive agreement... Et il n'est pas passé par une consultation du Congrès. Donc, lorsque Trump arrive au pouvoir, il a pu en sortir par simple décision présidentielle. Et c'est là que ça montre quand même, c'est tout l'enjeu de notre émission, mais ça montre quand même la puissance du président dans les relations internationales. Si vous regardez, sous Biden, les États-Unis vont revenir encore dans le traité, mais 27 janvier 2025... Trump arrive, il dit tout de suite on va procéder au retrait des États-Unis de l'accord de Paris et ça sera effectif en janvier 2026. Parce que cette fois, il va avoir une justification plus poussée. Il va reparler de sa politique du drill baby drill, c'est-à-dire ce qui consiste à encourager la production d'énergie polluante, énergie fossile. Et donc, il va vraiment faire une rupture totale avec les objectifs internationaux sur la lutte contre le réchauffement climatique. Moi, ce qui me fait quand même un peu peur, mais aussi parce que je prends ma casquette de juriste du climat, c'est que les États-Unis sont responsables d'environ 20% des émissions mondiales cumulées depuis 1850. Donc, voir leur désengagement régulier comme ça, ça remet en cause leur contribution à la justice climatique au niveau international, parce que on va se dire, moi je suis, un pays un peu moins influent économiquement et je vois que la première puissance mondiale, elle se dit, je me retire des accords sur les objectifs climatiques parce que j'ai envie de développer un peu plus le volet économique de mon pays. Bon, je suis un pays, un peu moins riche, je me dis, puisque même la première puissance, elle le fait, autant que moi aussi, je ne respecte pas ces obligations-là. Sachant qu'au niveau international, la problématique au niveau du droit, c'est que ce ne sont que, on appelle ça de la soft law, mais en fait, c'est que ce ne sont que des accords, en fait. C'est pas contraignant juridiquement. Vous n'allez pas mettre un État en prison parce qu'il n'a pas respecté un accord sur le climat ou un accord sur l'environnement. Donc, là, la problématique, elle est là, c'est que vous avez Donald Trump qui revient au pouvoir, qui va priver d'un certain nombre de protections environnementales qui sont au niveau national, sur son territoire, mais qui aussi auront des effets internationaux, comme je viens de vous l'expliquer. L'autre atteinte qui est pour moi beaucoup plus centrée sur les États-Unis, c'est la décision de Donald Trump de fermer l'agence pour la protection de l'environnement, Donc, c'est The Environmental Protection Agency. En fait, c'est une agence qui est chargée de protéger l'environnement et la santé publique du pays. Et le directeur, parce que vous allez voir, là, c'est un élément qui, moi, m'aura choqué. Bon, vous allez dire, normal, t'es juriste en environnement. Mais le directeur de l'IPA, donc l'Environmental Protection Agency, qui est Lee Zeldin, je vous fais pas de surprise, c'est un républicain aussi, il a justifié cette atteinte, c'est-à-dire la fermeture des bureaux de l'Environmental Protection Agency, parce que selon lui, il faut cesser la religion du changement climatique. Il dit que les annulations budgétaires au nom de la réduction, cette fermeture au nom de la réduction des coûts pour les familles et de la relance économique. Voilà. Vous avez le même discours que Trump, voilà, c'est pour l'économie. Voilà. Et actuellement, il y a encore des bureaux qui sont en train d'être fermés. Ce sont des bureaux qui, eux, sont plus spécifiques parce qu'ils touchent directement au droit, à la justice environnementale. Et on leur a suspendu à ces bureaux parce que il y a besoin de financement en droit. On leur a suspendu leur subvention qui s'élevait à quand même plus de 20 milliards de dollars. Donc juridiquement, ces réductions, est-ce qu'elles sont légales? Est-ce que le président, il peut influencer aussi directement sur des agences qui sont indépendantes? Parce que l'IPA, c'est une agence indépendante. En fait, ces questions-là, elles ont été directement soumises à des recours judiciaires parce qu'il y a eu des ONG, il y a eu des chercheurs qui ont formé des recours. Et voilà, on attend les réponses. Hein. Mais moi, je trouve quand même que l'influence de Trump sur la nomination judiciaire aussi au sein des cours, elle va jouer un rôle clé dans l'interprétation de ces décisions qui vont arriver parce que, voilà, si, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la Cour suprême, elle est composée de 9 juges. Parmi les 9 juges, il y en a 3 qui ont été nommés par Trump et ce sont 3 conservateurs. Là, il y a eu un gros scandale qui est passé à la télé. Ça va être la décision sur l'avortement où ouais. Plus de la moitié de la Cour a voté contre le droit à l'avortement, c'est-à-dire que c'était une décision qui date de 1973, qui donnait droit à chaque citoyen américain de pouvoir avorter, et on arrive sous la présidence Trump, on se retrouve avec un renversement total de la décision. Les juges ont décidé, voilà, que c'était plus un droit reconnu, ce qui fait que dans certains États, l'avortement est interdit. Dans d'autres, il l'est encore. Mais ça pose quand même des questions sur aussi l'influence présidentialiste sur les contre-pouvoirs, sur les tribunaux.
Ouais, surtout justement, alors on parlait d'environnement, mais avec la décision, je crois que c'est Roe v. Wade,
c'est
voilà,
ça,
c'est ça, en
Roe
1973 à propos de l'avortement, c'est aussi sur les questions sanitaires aussi, ce qui est très important quand même quand on parle justement de la première puissance mondiale, première puissance économique, c'est de dire aussi que au niveau sanitaire, eh bien les droits des citoyens sont relativement bien protégés. Bon, eh bien, malheureusement, il se trouve que Donald Trump n'est pas le premier dans l'histoire des États-Unis à avoir mis à mal la santé de ses concitoyens, hein, puisque de toute façon, ça remonte à il y a fort, fort longtemps. Mais j'ai choisi de prendre un exemple, là encore, qui date des années 40-50, qui montre à quel point dans l'ère dans laquelle nous vivons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les États-Unis ont eu de très nombreuses dérives, justement, vis-à-vis de la Constitution à propos de la protection de leurs citoyens et même du corps des citoyens. Donc c'est la raison pour laquelle on est à Radio Campus Po. Mon intention n'est pas de faire un podcast complotiste, mais je tiens quand même à tendre la main vers ces gens, puisque, eh bien, il y a une théorie que certains soutiens de Donald Trump soutiennent, une théorie qu'ils ressortent assez souvent, on en voit beaucoup aussi en France, qui est la théorie des chemtrails, ou que l'on peut traduire en français, les traînées chimiques. Donc, selon les partisans de cette théorie, pour résumer, les traînées visibles dans le ciel après le passage d'un avion n'auraient rien à voir avec la condensation, avec le kérosène relâché ou je ne sais quoi d'autre. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Cette traînée, d'après nos Albert Londres de Wish, est en réalité l'effet d'une pulvérisation de gaz nocifs dans l'atmosphère par des avions appartenant non pas aux compagnies aériennes, mais aux lobbies pharmaceutiques. Puisque plus c'est gros, plus ça passe, ces mêmes savants nous disent que les lobbies pharmaceutiques agiraient ainsi dans l'optique de multiplier les cas de cancer et de maladies graves pour ensuite avoir plus de demandes en médicaments et en soins médicaux, etc. Bref, voilà. Les chemtrails, c'est vraiment la meilleure invention d'un esprit complotiste. Mais figurez-vous que, eh bien, dans l'histoire des États-Unis, justement, puisqu'on parlait d'environnement, de santé, eh bien, certains événements leur donnent un peu raison et des événements documentés et confirmés par des sources officielles. C'est le cas de la Green Run de 1949, qui s'est déroulée dans la région de la ville de Hanford, dans le nord-ouest des États-Unis. Je ne vais pas m'étaler sur ce qu'est Hanford. C'est une ville, disons, nucléaire, une nuke town, donc comme le diraient les fans de Call of Duty ou de Fallout. Mais voilà, en fait... tout se passe à Hanford. Et donc, je vais rapidement faire un contexte. En 1949, on se situe après Hiroshima et Nagasaki. Et à ce moment-là, les Américains ne savaient pas grand-chose à propos des effets des radiations sur le corps humain. Eux qui avaient été les premiers à fabriquer une bombe atomique, à manipuler l'atome à des fins militaires et aussi à des fins civiles, ne connaissaient pas en fait les effets de la radioactivité. À l'exception de certains membres de la communauté scientifique, notamment des physiciens nucléaires, issus du projet Manhattan, qui était supervisé d'une part par les civils, donc en l'occurrence des scientifiques, comme un certain Robert O, dont Christopher Nolan a fait un biopic, il y a de ça, je crois, un ou deux ans, mais aussi par des militaires. Hein. Le projet Manhattan était supervisé par un militaire qui s'appelait Leslie Groves, et non pas Matt Damon. Et je ne pense pas surprendre nos auditeurs en rappelant que l'armée, en tant qu'institution, quelle qu'elle soit, en fait, se donne le droit de mentir et de dissimuler. À partir du 6 août 1945, l'armée américaine, avec l'aide du gouvernement et des grands groupes industriels concernés par les projets du nucléaire civil et militaire, s'efforce de monter une immense propagande autour de l'atome, tout en dissimulant les effets provoqués par cette nouvelle source d'énergie, les premiers effets qui sont connus de la radioactivité, dans une société qui, après 1945, se voyait au pic de la civilisation, puisque même les scientifiques qui militaient contre l'usage militaire ne pouvaient nier l'incroyable puissance de cette nouvelle source d'énergie. À cette époque-là, les grands noms de la science-fiction comme Isaac Asimov, Fondation, Robert Heinlein, Starship Troopers, Arthur C. Clarke, 2001, l'Odyssée de l'espace, ces grands noms de la science-fiction et nombre d'Américains pensaient que l'on pouvait avoir des piles atomiques pour faire fonctionner l'électroménager, avoir, par exemple, je ne sais pas, un four à rôtisserie qui fonctionnerait au plutonium, quelque chose comme ça, ou bien utiliser l'atome à des fins médicales, comme c'est le cas actuellement avec les radios ou les IRM. En fait, à ce moment-là, c'était vraiment l'époque de l'atome. Mais, comme je le disais, cette question revenait sans cesse. Quels étaient les effets de l'atome sur le corps humain ? Et depuis 1945, justement, des équipes américaines accompagnaient l'armée d'occupation au Japon pour observer les victimes des bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Et j'insiste sur le terme « d'observer ». Il était formellement interdit pour les scientifiques et les biologistes de soigner ou de toucher en fait à ces malades pour que les résultats des recherches, des observations soient le plus crédibles possible. Mais ça ne suffisait pas, puisque après 1945, on voulait également utiliser le nucléaire à des fins civiles. On voulait voir les effets sur l'homme, mais aussi sur la nature, sur les végétations. Une certaine entreprise que l'on connaît bien, qui a eu droit à de nombreux procès, du nom de Monsanto. Oui, Monsanto, c'est donc, s'est intéressé justement à l'atome. Et les militaires, le gouvernement et les scientifiques, tous ceux qui gravitaient autour du nucléaire, voulaient savoir. Et c'est pourquoi, en 1949, au-dessus de cette ville de Hanford, des avions rejetèrent des substances sur ces villes atomiques, en volant notamment sur les quartiers pauvres et ouvriers, afin de mener une expérience grandeur nature. Au moment des faits, aucun habitant n'était tenu au courant de ce qu'il se passait. Il a fallu des décennies, voire des années, voire des décennies, pour se rendre compte de l'horreur, puisque ces substances radioactives rejetées dans l'air à plusieurs reprises et en grande quantité par des avions, ont causé un désastre environnemental et sanitaire. Environnemental d'abord parce que les rejets déjà des usines de plutonium et des réacteurs nucléaires, ces rejets terminés dans des fleuves en amont ou en aval, je ne sais plus, mais donc au-dessus des villes. Donc, quand vous tirez l'eau du robinet, il y avait de l'eau radioactive, de l'eau verte fluorescente qui sortait de votre robinet, mais on vous disait que tout allait bien, en fait. Bon, il se trouve que finalement, non, puisque les cas de cancer chez les adultes ont explosé. On a eu des bébés, qui étaient des nourrissons qui sont morts de complications par milliers. Et donc, le gouvernement et l'armée avaient empoisonné la population de manière tout à fait... on s'est dit, on va le faire, c'est comme ça, hein, science. Et la population n'était pas au courant. Et donc, à partir de ce moment-là, l'armée a utilisé de très nombreux... De très nombreuses matières, de très nombreuses armes chimiques dangereuses pour la santé. Je prends le cas de la guerre du Vietnam quelques années plus tard, puisque les Américains ont utilisé l'agent orange, donc qui n'a rien à voir avec l'agent orange actuellement à la Maison Blanche, hein, mais donc cette histoire avec la Green Run en fait relève d'un très sérieux problème de communication entre l'armée, le gouvernement, les industries et les populations. Et donc le souci posé par la position... excusez-moi hein, si je bug un peu. Hein.
Non.
Mais le souci qui est posé par ce genre d'expérience, c'est que la position du gouvernement... au-delà des questions environnementales et sanitaires, aborde l'éthique et la morale au-delà des considérations purement politiques. J'ai pris un cas extrême, mais en ce qui concerne Donald Trump, grâce à ce genre d'événement qui a nourri la méfiance des Américains au fil des décennies, son mouvement MAGA a réussi à rassembler des Américains par milliers, par centaines de milliers, puisqu'on l'a vu au moment du Covid, il y a eu cette énorme méfiance, ce scepticisme par rapport aux vaccins, par rapport à la communauté scientifique. Il y a eu des campagnes d'intimidation contre des biologistes. Ouais. Mais justement, ce dernier... Donald Trump, avec son, comme tu disais, drill baby drill, semble plutôt donner une réponse un peu ambiguë pour quelqu'un qui a fait sa campagne un peu sur cette méfiance. Puisque peu importe les retombées d'une réindustrialisation, d'une dévastation de l'environnement et des dérives de cette dévastation sur la santé des Américains, lui-même ne se cache pas que l'essentiel réside dans l'argent. J'en reviens sur aux attaques sur la communauté scientifique. Le risque de l'ingérence de Donald Trump et du gouvernement pourrait mettre en péril cette liberté scientifique et civique que ses soutiens eux-mêmes voyaient comme un grave problème au temps du Covid. Des recherches aux résultats tronqués, menées pour complaire à de grandes entreprises industrielles et à l'armée. En fait, à travers la question environnementale, c'est un problème de vie civique qui se pose avec le mandat de Donald Trump. Et donc, comment protéger la nature et la santé face au pouvoir de l'argent. Voilà. Donc, je pense que après cette longue tirade, je suis désolé, Maria, mais je suis désolé pour nos auditeurs. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'est venu le temps de conclure et de finalement parler de Donald Trump et de la Constitution. Qu'est-ce qu'on en tire finalement ?
Je dirais que tous les exemples qu'on a cités, ils montrent que le pouvoir présidentiel aux États-Unis, il peut devenir très large, presque sans limite, surtout si les contre-pouvoirs ils ne fonctionnent pas pleinement. Et je vais encore remettre un événement d'actualité, mais depuis environ 2020, je crois, avec Trump, on a vu à quel point ce système il pouvait être mis en tension, ce système aux États-Unis de checks and balances. Parce que rappelez-vous de la fin de l'élection de 2020 où Trump il avait refusé les résultats de vote et qu'il avait exercé des pressions sur des responsables locaux et qu'il avait tenté d'invalider certaines certifications électorales. Des recours avaient été déposés, mais la Cour suprême elle a majoritairement refusé de s'en saisir. Donc à partir de là, ça pose aussi une question de savoir si les institutions, elles sont assez solides pour résister à la pression, ou est-ce qu'elles font aussi pleinement leur job. Quand un président, il pousse les limites, on l'a vu tout à l'heure, tu l'as très justement rappelé, que pendant la guerre de sécession, pendant Watergate, ou encore là, pendant les événements récents, c'est toujours la même question, c'est de se dire... est-ce que finalement le présidentialisme américain, il n'est pas en train de faire céder les institutions qui sont pourtant garanties par la Constitution ? Moi, je dirais plutôt que, pour rester quand même assez neutre juridiquement, je dirais quand même que...
Ce n'est pas simple.
Hop, le petit tacle. C'est de bonne guerre. Mais je dirais que ces institutions, elles ont été fragilisées, voilà, et que en plus qu'on ait un petit peu des institutions qui savent pas vraiment résister à la pression politique d'un personnage fort, on a d'autres pouvoirs qui ont émergé. Vous avez les grands acteurs économiques qu'on a cités tout à l'heure, Elon Musk, il y en a d'autres, hein. Qui, par exemple, avec Twitter, ils ont pu influer directement sur la circulation de l'information, sur le débat démocratique en lui-même. Et donc, il y a une vraie question qui est juridico-politique, c'est est-ce que le premier amendement, il protège les citoyens face à l'État ? Oui, mais il dit rien sur les entreprises privées. Donc, un propriétaire comme Musk, il peut décider qui parle, qui se tait. Enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais il y a quand même... une vraie question sur la place aussi des acteurs économiques. Donc,
Oui, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a, cette question des acteurs économiques, puisque de toute manière, le rêve justement de... peut-être pas nécessairement de Trump, mais en tout cas de Elon Musk, c'est peut-être aussi... ils arrivent justement peut-être à leur fin, c'est qu'ils veulent peut-être détruire l'État. Puisque en conclusion, je dirais que Musk, tout le monde se posait au début du deuxième mandat de Trump, tout le monde se posait la question, mais qui gouverne en réalité ? Qui gouverne ? Puisque Musk, avec son Department of Governmental Efficiency, le DOGE, qui n'a rien à voir avec un Shiba Inu, ce DOGE, était chargé de réduire des budgets massivement pour empêcher l'État d'influer trop sur la vie publique. C'est le rêve du libertarien qu'est Donald Trump, Elon Musk. Les deux se rejoignent un peu dans cette idée-là. Et est-ce que finalement, on n'en arrive pas à se dire, on est face à une... entre guillemets, utopie libertarienne, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que cette forme d'anarchie capitaliste est souhaitable? Puisque justement, tu parlais de la limite de ce premier amendement avec la liberté d'expression. Est-ce qu'on souhaite une société où la parole est en fait dépendante de la volonté des grandes sociétés?
Un seul individu.
D'un seul individu, finalement, ouais. Puisque à la tête de cette société, il y a toujours le PDG, le Elon Musk, le Mark Zuckerberg, le Jeffrey Bezos. Donc, c'est assez compliqué. Mais bon, ça, l'histoire nous le dira. Nous ne sommes qu'au mois de mai. Il n'est en fonction que depuis 4 ou 5 mois. Donc, on va lui laisser ses 4 ans avant qu'il en tirer une véritable conclusion. À moins que d'ici là, il n'ait appuyé sur le bouton de la bombe. Mais on ne l'espère pas. On ne l'espère pas du tout. Eh bien, je pense que notre émission touche à sa fin, Mariam.
Ouais.
Est-ce que tu as un mot à dire pour nos auditeurs en guise de revoir?
J'aimerais déjà vous remercier de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode il vous a éclairé sur le fonctionnement du système américain, ses forces, ses failles, ou sur ce que Trump a pu faire récemment et que vous avez vu passer dans l'actualité, mais peut-être vous n'aviez pas tous les éléments pour comprendre totalement ce qui se passait. Donc voilà, juste les remercier de nous avoir écoutés.
Très bien. Eh bien, merci Mariam. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette émission avec toi.
Merci à toi.
Et avant de vous laisser avec une petite musique de Brave Shores nommée Never Come Down, eh bien, moi aussi, je tenais à vous dire au revoir. Et je ne me souviens plus de la réplique exacte de Jim Carrey dans The Truman Show, mais je vous dis que, à moins qu'on ne se revoie pas aujourd'hui, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine. Merci à tous. We are going to make our country great again.